Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, que faire des pédophiles ? Une conférence pour réfléchir aux moyens de lutter contre les abus sexuels sur mineurs au sein de l'Église. C'est l'objet de la rencontre organisée par le Vatican depuis ce jeudi, en présence d'évêques venus du monde entier. Après une série de scandales révélés ces dernières années, la hiérarchie catholique semble enfin décidée à traiter durablement ce sujet. L'Église n'est pas la seule institution à devoir faire face à la question de la pédophilie. Comme toute structure accueillant des enfants, l'éducation nationale, par exemple, est un lieu de vulnérabilité, mais c'est avant tout au sein de la famille que les cas sont les plus nombreux. Difficile pour autant d'évaluer le risque pédophile, d'autant que ces manifestations sont diverses, du simple fantasme au passage à l'acte. Les actes criminels sont les plus médiatisés et relancent presque systématiquement le débat autour de la sévérité des peines et de la récidive. La question de la prévention, elle, est moins souvent évoquée. Elle suppose d'accepter l'idée que les pédophiles puissent être considérés aussi comme des personnes ayant besoin d'être aidées. Alors que faire des pédophiles ? C'est la discussion du soir en compagnie de trois invités. Marie Mercier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénatrice Les Républicains de Saône-et-Loire, rapporteuse au Sénat du groupe de travail sur les violences sexuelles sur mineurs et vous exercez le métier de médecin généraliste. Pour discuter avec vous, un avocat, Rodolphe Costantino, bonsoir.
Bonsoir.
Défenseur de l'association Enfance et Partage, une association qui œuvre depuis plus d'une quarantaine d'années à la protection de l'enfance. Et puis notre troisième invité, Anne-Hélène Moncagny, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes psychiatre et trésorière de la Fédération française des centres ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles, qui donne l'acronyme suivant.
CRIAPS.
Alors pour commencer, j'aimerais savoir avec vous si vous considérez les uns et les autres que bien qu'il est encore nécessaire aujourd'hui d'expliquer que la pédophilie c'est quelque chose qui est grave, ou bien est-ce qu'il y a une prise de conscience assez générale de la société, Anne-Hélène Moncagny?
Alors, je crois qu'évidemment, il s'agit d'un sujet extrêmement important et toujours aussi grave, mais que sur ces sujets-là, c'est très important de s'entendre avant tout sur les mots qu'on utilise et les définitions. Et donc, de quoi parle-t-on quand on parle de pédophilie ? Alors, nous, psychiatres, nous, médecins, quand nous parlons de pédophilie, nous parlons d'un trouble psychiatrique qui est une paraphilie, qui est répertoriée dans les classifications internationales des maladies psychiatriques et qui n'est pas nécessairement définie par une agression sexuelle, un passage à l'acte sur des enfants. C'est-à-dire que la pédophilie en psychiatrie, c'est définie comme une attirance sexuelle chronique pendant plus de 6 mois pour des enfants prépubères. Voilà. Donc on peut être considéré comme pédophile sans jamais passer à l'acte, agresser sexuellement un mineur. À l'inverse, on peut agresser sexuellement des mineurs sans être pédophile.
Est-ce que vous considérez que ces précisions-là sont encore nécessaires aujourd'hui ? Parce que quand on parle de pédophilie, justement, peut-être que le grand public n'a pas une connaissance suffisamment fine de ce que cela recouvre.
Ça me paraît absolument fondamental. Parce que l'idée qu'on a, c'est que, effectivement, les personnes qui présentent un trouble pédophilique sont à risque, plus à risque que la population générale, d'agresser sexuellement des mineurs, même si on a peu de données là-dessus. Hein, parce qu'on a beaucoup plus de données scientifiques sur les pédocriminels que sur les personnes qui souffrent ou qui présentent un trouble pédophile. Mais ça nous paraît fondamental. Pourquoi ? Parce que ce qu'on se dit, c'est qu'on peut agir, qu'on peut faire de la prévention auprès des personnes qui présentent un trouble pédophile avant, en amont d'un passage à l'acte.
Et ça suppose évidemment et effectivement de bien connaître cette population. Est-ce que vous partagez ce point de vue, Rodolphe Constantino ?
Oui,
qui n'est pas un point de vue d'ailleurs, qui est une analyse. Mais...
Oui, oui, non, mais effectivement, c'est une analyse plutôt fine et évidemment tout à fait juste. Nous, dans les situations que nous rencontrons devant la justice, on a absolument de tout. C'est-à-dire, on comprend que quand on parle de pédophilie, généralement, c'est une espèce de fourre-tout. Ça va du grand-père qui a très occasionnellement a touché sa petite-fille une après-midi et où les faits ne se sont pas répétés, jusqu'à celui qu'on appelle le prédateur sexuel qui a fait 40, 60 victimes.
Est-ce que vous, en tant qu'avocat, vous avez l'impression que l'institution judiciaire, justement, a cette connaissance suffisamment fine de ce que cela peut recouvrir que ce terme de pédophilie ?
Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je crois que nous, la grande difficulté à laquelle nous sommes confrontés, c'est que nous avons des magistrats qui ne sont, à l'exception de quelques magistrats du siège, dans des chambres parfois spécialisées dans ces affaires. Pour le reste, on a des magistrats qui ne sont absolument pas formés et qui ont une connaissance à peu près nulle, je dirais, sans m'engager trop loin sur tous ces sujets.
Je vois que la sénatrice Les Républicains de Saône-et-Loire, Marie Mercier, approuve ce que vous dites.
Oui, parce que quand nous avons travaillé ce rapport sur la protection des mineurs, en particulier sur les victimes sexuelles, on s'est rendu compte que la loi, l'arsenal législatif, il était là, mais que la loi, elle était mal connue et mal appliquée, même des professionnels, ce qui semble absolument paradoxal. Or, la loi, elle est là pour... C'est un contrat social, elle est là pour protéger la société. La loi, c'est aussi fait pour poser des interdits. Et en l'occurrence, on ne touche pas à un enfant, comme c'est écrit dans l'article 227-25 sur l'atteinte sexuelle.
Et si la loi est mal connue, Marie Mercier, est-ce qu'il y a quand même des institutions qui prennent peut-être davantage conscience aujourd'hui qu'elles ne l'ont fait par le passé, de la gravité de cette question? Vous avez notamment, dans le cadre de la mission d'information, auditionné le secrétaire général de la conférence des évêques, et j'ai vu que dans une restitution de ces auditions, vous disiez qu'il y avait, vous aviez constaté en tout cas du côté de la Conférence Générale des Évêques en France, une vraie conscience des victimes et de leur drame.
Absolument, c'est tout à fait mes mots, j'ai dit c'est une prise de conscience qui est peut-être un peu tardive puisqu'ils nous donnaient l'année de 2017. Donc l'Église fait son examen de conscience. Il y a des institutions qui feraient bien de suivre cet exemple. Je pense à l'Éducation nationale, je pense aux conseils départementaux aussi, je pense aux conservatoires, je pense au milieu du sport. En fait, toutes les institutions qui ont des adultes en contact avec les mineurs. Donc ça fait énormément de lieux où il peut se produire ces agressions.
Cette prise de conscience, elle manque encore de se faire, notamment au sein de l'Éducation nationale, Rodolphe Costantino ?
Je ne suis pas certain que ce soit un manque de prise de conscience pour ce qui concerne les institutions.
Un manque de volonté alors d'agir ?
Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a dans ces institutions une petite raison d'État qui s'exprime, qui voudrait que... faire savoir, faire sortir une affaire, faire sortir quelqu'un qui est impliqué dans un dossier, ça se fait pas très facilement, parce que au fond, c'est jeter l'opprobre sur l'institution tout entière. Et que parfois, à cette honte-là, on préfère celle qui consiste à masquer les choses. Voilà. Ça, c'est ce que je constate dans les dossiers que j'ai, dans lesquels ce sont de véritables luttes, pour faire valoir le point de vue de certains enfants qui viennent se plaindre de
telle ou telle... Il y a quand même des choses qui sont faites. Hein, j'ai vu, par exemple, il y a deux ans, les casiers judiciaires, par exemple, des membres de l'Éducation nationale sont systématiquement contrôlés, et que ça s'est traduit notamment d'ailleurs par des radiations, parce qu'on s'est aperçu que parmi des personnels de l'Éducation nationale, il y avait des délinquants sexuels. Anne-Hélène Moncani.
Oui, j'entends tout à fait ce que vous dites, M. Constantino. Je pense aussi qu'il y a une inquiétude et des professionnels et une méconnaissance lorsqu'il y a une affaire qui éclate de ce type au sein d'une institution. Il y a énormément d'inquiétude des professionnels sur à qui s'adresser, à qui le dire, comment, quelle va être notre responsabilité, comment on va faire avec ça. Et alors c'est vraiment une des missions des CRIAPS, hein, donc vous avez réussi à dire avec brio, les centres ressources pour les intervenants auprès d'auteurs de violences sexuelles. Parmi nos missions, on a vraiment cette mission d'expliquer, y compris au sein des institutions, auprès des professionnels, qu'est-ce qu'on fait quand il y a la révélation d'une violence sexuelle subie, et à qui s'adresse-t-on et comment, et voilà. Et ça, c'est vraiment dans nos missions de terrain, hein, les CRIAPS, il y en a un par région, il y en a 27 en France. C'est 200 professionnels de champs très différents. Bon, il y a des soignants évidemment, mais il y a aussi des juristes, des sociologues, et on a vraiment cette mission d'aller expliquer, vous parliez de la méconnaissance de la loi, d'aller expliquer aussi les lois, les soins pénalement ordonnés, qu'est-ce qui va se passer. Ça fait vraiment partie de nos missions. Il faut que chaque professionnel dans ces situations-là sache que les CRIAPS existent en région et qu'ils peuvent les solliciter pour les accompagner.
Et parmi les professionnels, il y a notamment les médecins citoyens qui peuvent se retrouver justement en situation de devoir, enfin en tout cas de recueillir peut-être des témoignages de personnes qui vont dire à leur médecin traitant voilà qu'ils pensent peut-être avoir des penchants pédophiles. Est-ce que du coup Marie Mercier, je vous pose la question puisque je précisais en début d'émission que vous êtes par ailleurs médecin généraliste, est-ce que vous par exemple dans l'exercice de votre profession vous aviez une connaissance de la démarche à suivre pour alerter sur un comportement qui ferait penser que tel individu est pédophile?
Et non, et je ne l'ai pas appris dans mes études. C'est terrible parce qu'il y avait quand même aussi ce tabou. Finalement, vous disiez au début de l'émission, il y a une connaissance qui avance de plus en plus, à la fois du côté des législateurs, du côté de toute la population, du côté des institutions, parce que elles ont quand même une conscience aiguë de la conséquence de ce, quand il y a un pédophile, entre guillemets, dans une institution. À ça, ils l'ont, cette conscience de la conséquence d'avoir à gérer ce cas. Par contre, ils n'ont pas une conscience fine du drame et de la violence subie par l'enfant qui portera ça toute sa vie comme un stigmate et ça engendrera des vies brisées tout de même. C'est ça qui nous semble catastrophique en termes de méconnaissances, à la fois chez les médecins, oui.
Anne-Hélène Moncani, vous êtes psychiatre. Est-ce qu'au moins, quand on apprend la psychiatrie, la pédophilie, c'est quelque chose qui est enseigné, en tout cas, qui fait l'objet, justement, d'un enseignement pour être capable de détecter et de répondre aussi aux patients qui feraient l'objet, justement, de cette, pathologie, non, c'est pas...
Oui, troubles psychiatriques. Écoutez, on y travaille intensivement. Vous avez raison, Madame Mercier, c'est assez récent le fait qu'on aborde ces questions-là, y compris dans les enseignements de médecine et de psychiatrie. Alors aujourd'hui, là encore, les professionnels des CRIAVS donnent des. Il y a une mission de formation qui est très importante. Donc moi, régulièrement, je donne des formations aux internes de psychiatrie sur ces questionnements-là. Et effectivement, l'idée, c'est que le jour où un patient arrive en disant je suis attirée sexuellement par des enfants, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas à qui m'adresser, je ne suis pas passée à l'acte, mais j'ai peur que ça m'arrive. C'est inenvisageable aujourd'hui que le professionnel ne sachant que faire, en reste là. Ou voilà, il faut aujourd'hui que les réflexes soient rapides, efficaces, et que, par exemple, ils sollicitent soit des professionnels qui sont un peu spécialisés dans ce soin, ou les CRIAVS éventuellement pour une orientation un peu fine et une évaluation. C'est tout à fait possible.
Rodolphe Constantino, est-ce qu'il y a aujourd'hui un déficit de structures en mesure d'accueillir pas seulement la parole des victimes, qui évidemment est une parole absolument essentielle, mais aussi la parole des auteurs, ou en tout cas de ceux qui sont susceptibles de passer à l'acte?
Mais vous faites bien de parler tout à la fois des victimes et des auteurs, parce que je pense que leur destin, si je puis dire, les choses de cette manière, sont intimement liées. Et que sans doute, là où on a manqué d'air, si j'ose dire, pendant très longtemps, pendant des années, moi ça fait 25 ans que je traite ces sujets, c'est qu'on a voulu à tout prix s'occuper des victimes, ignorer les auteurs, parce que parler des auteurs, c'était ignorer les victimes, et inversement, je crois que là, si on a une vue un peu plus globale, quelque chose qui ressemblera un peu plus à de la médecine chinoise dans ces matières, peut-être qu'on va réussir à avancer un peu. Alors, oui, bien sûr que ça manque de structure. Moi, je ne sais pas combien d'individus, parce que j'aime pas les appeler pédophiles, ça me plaît pas, même si c'est ce de quoi ils sont atteints. Mais je ne sais pas combien d'individus sont concernés par cela, mais je vois dans les dossiers parfois des gens qui sont et qui ont été avant des passages à l'acte, puisque moi je ne les vois qu'une fois qu'ils sont passés à l'acte, par définition, puisque la justice ne les connaît qu'à ce moment-là. Des gens qui étaient en grande souffrance. Et qui ne savaient pas du tout vers qui se tourner, avec la peur d'être dénoncé, avec etc. etc. Et ça fait très longtemps qu'on appelle à la création de lieux ou de lignes d'écoute où ils pourraient dire quelque chose de leurs difficultés.
Alors on va aller dans un instant sur la question de la réponse à apporter quand il y a eu passage à l'acte, et qui est notamment en particulier une réponse judiciaire. Mais sur la question de la prévention, Marie Mercier, est-ce qu'il n'y a pas justement un problème par rapport à la réponse politique, c'est-à-dire de s'intéresser surtout aux affaires qui sont les plus médiatisées, c'est-à-dire les affaires criminelles, et peut-être de manquer d'attention pour cette zone beaucoup plus grise, qui est celle de l'avant-passage à l'acte et qui nécessiterait justement de vraies politiques de prévention.
Mais absolument.
Ouais. Mais pourquoi ça n'existe pas davantage? Est-ce que parce que politiquement, ça n'est pas aussi quelque chose d'un petit peu délicat, on va dire, à aborder, de dire on va faire de la prévention au bénéfice de possibles auteurs d'actes pédophiles?
Politiquement, on doit préparer les adultes de demain. Donc je pense que ça, c'est la volonté de base. Donc la prévention, elle doit se faire dans les écoles, elle doit se faire chez les professionnels qui ont des enfants dont ils doivent s'occuper, ça c'est certain. Mais pourquoi ça n'intéresse pas tellement, finalement? Quand je faisais mes auditions, un magistrat me disait, oh ben, vous savez, les mineurs, c'est mineurs. Le tribunal des mineurs, souvent, il est en sous-sol. Mmh. Qu'est-ce qui intéresse? C'est le terrorisme et la finance. Alors que les mineurs, il faudrait que le ministère de l'Éducation ait des moyens, que le ministère de la Justice ait des moyens pour accentuer la formation, faire en sorte que cette connaissance sans tabou, elle puisse s'exprimer dans les écoles en laissant entrer certaines associations habilitées pour expliquer à un enfant, on n'a pas le droit de te toucher à cet endroit. Voilà, point.
Mais il y a aussi une prévention qui peut être exercée à l'égard, enfin en tout cas à destination des personnes pédophiles. En préparant l'émission, j'ai découvert par exemple qu'il y avait en Allemagne des spots télévisés aux heures de grande écoute à l'adresse des pédophiles qui leur disent « Vous aimez un peu trop les enfants, on peut vous aider ». Ça, c'est quelque chose de totalement inenvisageable en France, Anne-Hélène Moncagny.
J'espère que non. Non, je vous remercie de me poser la question. Alors, ça n'existe pas. Et pourtant, c'est vraiment aujourd'hui une priorité pour nous, hein, les professionnels des CRIAF, parce que, en effet, en termes de prévention. Alors, je vais revenir juste un peu sur, nous, en médecine, on a trois niveaux de prévention, hein. Donc, il y a la prévention primaire, c'est ce que vous évoquiez dans les écoles, auprès de la population générale. Et là, il y a vraiment un premier niveau qui est tout à fait important auprès des victimes potentielles, mais aussi auprès des auteurs potentiels. Parce que quand on s'adresse à la population générale, évidemment, il faut faire ce que vous disiez, hein, de dire aux enfants à prendre un diamant, etc. Mais en même temps, responsabiliser les victimes potentielles, c'est toujours un peu compliqué. On sait aussi qu'on intervient auprès d'auteurs de violences potentielles. Et donc, travailler sur les compétences psychosociales, le consentement, le désir de l'autre, l'autre qui dit non, etc. Alors évidemment, il faut l'adapter aux âges, hein, de la vie, bien sûr, mais c'est absolument fondamental. Ça, c'est la prévention primaire. Sur la prévention secondaire, donc c'est vraiment la question. Donc sur ces profils à risque, donc par exemple les personnes qui présentent un trouble pédophile, évidemment qu'il faut créer un dispositif qui permette, excusez monsieur Costantino, à ces personnes d'appeler pour être orientées vers des soins avant tout passage à l'acte. Ça n'existe pas en France aujourd'hui.
Ça c'est va bientôt exister.
Alors, on le souhaite vivement. C'est une des recommandations qui est issue d'une audition publique qu'on a menée sur la prise en charge des auteurs de violences sexuelles et sur la prévention. C'est la proposition numéro 14. Vous pouvez consulter le rapport sur le site de la Fédération des CRIAF, s'il est à libre disposition. Ça existe en Allemagne, vous l'avez dit. Depuis 2005, il y a eu, donc c'est un dispositif, un numéro d'appel gratuit, unique, qui... Il y a eu 9000 appels parmi ces 9000 personnes qui ont appelé, 4500 étaient orientées vers des soins. Parmi ces personnes, combien seraient passées à l'acte? Je n'en sais rien. Mais si ça a permis qu'un seul, déjà, et ne passe pas à l'acte, c'est déjà une victoire. Et nous, en France, ça nous paraît absolument fondamental de le mettre en place. Mais ce que vous disiez est très important, il faut un numéro unique qui fonctionne, mais il faut aussi que les personnes connaissent l'existence de ce numéro. Donc, il faut le diffuser très largement. Et ça, c'est des campagnes de diffusion grand public, et ça coûte de l'argent. Et là, on a besoin de soutien financier, évidemment.
Ça coûte de l'argent, et ça peut aussi susciter des réactions hostiles, j'imagine, ce genre de campagne, Rodolphe Constantino, c'est-à-dire avoir un spot de télé qui s'adresse directement aux personnes pédophiles en leur disant, bah voilà, appelez-nous, et venez nous parler de votre problème. Quand on voit les réactions que provoquent certaines affaires criminelles, des réactions extrêmement fortes, j'imagine que c'est assez délicat en tout cas.
Oui, écoutez, j'ai envie de vous dire,
peu importe,
il y a des ignorants partout, mais il faut qu'on les éduque. Voilà, on va pas s'empêcher de faire ce qu'il y a à faire juste parce qu'il y a des gens chez qui ça va susciter, je ne sais pas trop quelle réaction maintenant.
En tout cas, en France et Partage, vous êtes plutôt favorable justement à l'existence d'un numéro unique et d'un endroit où on puisse justement évoquer ces problèmes-là.
Bien sûr, c'est tout à fait indispensable. Alors, on a discuté parfois au sein des associations de protection des mineurs victimes pour savoir si on pouvait nous instiguer une ligne de cet ordre-là. Bon, l'idée, ça a toujours été de dire il ne faut pas mélanger les genres. Alors, je sais qu'il y a une association qui le fait, elle est connue pour ça. Mais chacun disait, bon, on ne peut pas à la fois s'occuper des auteurs, hein, mais il faudrait que quelqu'un le fasse. Voilà.
L'association, c'est l'Orbe...
L'Ange Bleu.
L'Ange Bleu, voilà. J'allais dire l'Orbe Bleu, non, c'est l'Ange Bleu, voilà, pardon. Je savais que je me trompais en le disant.
Donc, chacun sa place, mais il y a évidemment de la place pour ça, comme il y a évidemment un vrai appel d'air, je pense, et une vraie nécessité. Vous parlez de spot télévisuel tout à l'heure, qu'il s'adresse aux auteurs potentiels ou aux victimes potentielles, j'ai envie de dire, mais en tout cas, c'est le calme plat de ce côté-là. C'est-à-dire que on a vu ce qui avait été mis en œuvre pour les violences faites aux femmes. On sait combien ça a été impactant, d'ailleurs, mais y compris politique justice. Pour ce qui est des mineurs victimes et de la pédophilie, rien du tout. C'est silence radio.
Dans l'hypothèse, Anne-Hélène Moncani, où quelqu'un qui utilise ou qui utilisera ce numéro de téléphone unique évoque un passage à l'acte, c'est-à-dire quelque chose qui a eu lieu, qu'est-ce qui se passe derrière? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une obligation de dénonciation de ces faits, de signalement? Parce que c'est aussi, enfin, le risque, peut-être pas un risque, mais en tout cas, c'est une hypothèse qui peut se produire, que quelqu'un qui soit l'auteur d'actes pédophiles vienne le signaler à ce type de numéro.
Oui. Alors, d'abord, ce qu'il faut vous dire quand même, c'est que le numéro unique n'existe pas encore, mais il y a déjà des choses qui existent. Alors, vous avez cité l'association Latifa Benari, vous avez raison de le dire, elle fait ça depuis longtemps, et ça a montré qu'il y avait vraiment un besoin de ce côté-là. Il y a aussi, au sein des CRIAPS, on a monté ce qui s'appelle le réseau écoute-orientation, c'est-à-dire la possibilité pour les personne qui présente un trouble pédophile, étant sexuel pour les enfants, d'appeler dans les CRIAPS, c'est d'être orienté. La plupart des appels, il faut savoir que c'est des personnes qui donnent leur nom et qui nous signifient qu'elles sont très en difficulté avec leurs attirances sexuelles et qu'elles ont besoin d'aide. Donc, nous, on n'a jamais reçu le type d'appel que vous décrivez, mais enfin, effectivement, il faut y penser, ça pourrait arriver, même si je pense que ce ne sera pas du tout la majorité des appels. Mais là, bah, on est dans les règles de signalement, j'allais dire classiques, c'est-à-dire qu'il est tout à fait évident qu'on ne laissera pas un mineur en danger en ayant connaissance d'une situation de mineur en danger. Ça, c'est les règles de la pratique médicale de soins classiques. Voilà.
J'ai lu que 90% des affaires de pédophilie avaient lieu dans le cadre familial, Marie Mercier. Est-ce que ça ne complique pas, là aussi, le signalement? C'est-à-dire, c'est pas seulement les institutions comme l'éducation nationale, comme l'église ou comme les associations, par exemple, culturelles et sportives. C'est d'abord au sein de la famille.
Bien sûr.
Inciter, justement, quelqu'un dans le cadre familial à signaler quelqu'un de sa famille qui se livre, voilà, des actes pédophiles.
Mais c'est très difficile. C'est très difficile parce que l'enfant pense que c'est normal ce qu'il subit à l'intérieur de sa propre famille. Il n'a pas d'autres références. Donc, c'est très compliqué pour lui de se faire une idée de ce qui se passe. Donc,
je pensais moins à l'enfant qu'aux autres adultes qui peuvent rendre compte de ce qui se passe.
Avec un silence souvent, où malheureusement il y a une protection qui s'instaure, une protection néfaste, où certains savent mais se taisent, ne veulent pas dire parce qu'il y aurait des conséquences. Donc tout ça est juste terrible. Peut-être pas 90% de violences à l'intérieur des familles, mais que ce soit de la pédocriminalité ou l'inceste qui existe depuis que le monde existe. Donc éduquer les enfants, mais la parentalité extrêmement importante au sein des hôpitaux, où il faut des cellules pour écouter les mamans. Il y a beaucoup de précarité, de prématurité aussi. Donc l'éducation, elle doit se faire dès la maternité pour prendre en charge bien la famille, mais d'abord aussi la maman, le papa, avant que le pire n'arrive.
Alors une fois que le pire arrive, là on passe au volet, on n'est plus dans la prévention, mais on est dans les questions de la sanction. Est-ce que vous considérez, les uns et les autres, qu'aujourd'hui la législation française est suffisante, correctement adapté, on va dire, pour régler ces questions? Je me tourne d'abord vers l'avocat Rodolphe Costantino.
Oui, je voulais rebondir, si vous me l'autorisez, une seconde sur ce que vient de dire...
Une seconde, pour pas qu'on perde trop de temps, parce qu'il nous reste plus qu'un quart d'heure déjà.
Le sénateur, en disant, effectivement, ces affaires familiales sont absolument terrifiantes, et le sort qu'il aurait réservé par la justice encore davantage. Parce qu'il faut savoir que, le plus souvent, un enfant va dénoncer au moment où les parents se séparent. C'est le moment qu'il va attendre, parce que pour lui, le danger s'éloigne à ce moment-là. Et qu'à ce moment-là, la manière dont la justice accueille ces dénonciations-là est totalement désadaptée. C'est-à-dire qu'on va mettre en avant le conflit parental, imaginer que c'est la mère qui dénonce, parce que et on arrive à des situations qui sont vraiment absurdes. Bon, cela étant dit...
Non, mais cela dit, c'est important la façon dont c'est accueilli. Pour autant, est-ce que l'arsenal juridique est suffisant aujourd'hui pour répondre à toutes les situations d'actes pédophiliques?
Oui, je crois qu'on a un arsenal juridique qui est un des plus perfectionnés. Je crois qu'on peut dire ça sans s'avancer beaucoup. Après, c'est l'utilisation qui en est faite et c'est une question d'état d'esprit. Voilà. Et là-dessus, il y a encore beaucoup à faire. L'une d'entre vous disait tout à l'heure, et c'est fort juste, ce qu'on n'a pas mesuré, c'est combien c'est impactant pour les victimes. Nous le savons, parce que avec ces lois qui ont permis des dénonciations avec des prescriptions rallongées qui permettent à des victimes de dénoncer des viols jusqu'à l'âge de 38 ans, par exemple, on a aujourd'hui des victimes qui ont été victimes il y a 30 ans ou il y a 35 ans, et quand on les voit, on voit qu'elles sont absolument démolies pour des faits qu'elles ont subis quand elles avaient 4 ou 5 ans. C'est-à-dire que cet impact-là... ça, c'est pas suffisamment pris en compte, parce que si ça l'était, et s'il y avait suffisamment conscience prise de cet état de fait, on comprendrait que ce dont on est en train de parler, ça va bien au-delà de tout ça, parce que c'est un problème de santé publique.
J'ai sous les yeux quelques panels de types de sanctions qui existent dans la loi, avec des circonstances aggravantes lorsque la victime est mineure. C'est le cas dans le cas des viols, dans le cas des agressions sexuelles. Viol, c'est 20 ans de prison plutôt que 15 si la victime a moins de 15 ans. Agression sexuelle, 10 ans de prison plutôt que 7 si la victime a moins de 15 ans. Mais il y a aussi la diffusion ou la consultation d'images pédopornographiques qui sont sanctionnés. La consultation, c'est 2 ans de prison, 30 000 euros d'amende. Ce sont des maximums, bien sûr, à chaque fois. Est-ce que ce sont des peines qui, quand elles sont prononcées, sont correctement exécutées, Marie Mercier?
Alors, il y a des aménagements de peines qui existent, évidemment. Mais j'ai envie de vous dire... et quand ils vont sortir... Quand ils vont sortir, les auteurs, quand ils vont retourner dans leur famille, c'est là où notre système pêche. On n'a pas un suivi socio-judiciaire au top. Mais nous avons des lois. Mais la loi, elle est là pour quoi ? Elle est là pour rendre la société meilleure. Donc la loi, elle est plus ou moins appliquée. Le problème, c'est le suivi des auteurs à l'intérieur de la prison, des détenus. Et ensuite, quand ils sortent, le suivi en milieu ouvert, c'est tout ce que nous essayons, nous, de mettre à jour dans la mission qui est menée actuellement sur l'évaluation des violences sexuelles dans les institutions chez les mineurs. Donc l'Allemagne a fait le pari de la prévention, et c'est un excellent pari. La France devrait suivre avec ce numéro dont on parlait tout à l'heure. Mais je ne pense pas que la prison soit la seule et unique réponse. La prison est nécessaire parce qu'on a posé un interdit, mais il faut un suivi de l'auteur.
Ce suivi, il est insuffisant aujourd'hui, Anne-Hélène Moncani?
Alors, dans les textes, on a un dispositif qui est extrêmement intéressant, qui est le dispositif du suivi socio-judiciaire et de l'injonction de soins, donc depuis la loi de 98, qui a été pensé à la fois par le législateur, par des psychiatres. C'était à partir d'un travail de recherche fait par des psychiatres en détention.
C'est automatique, ça, ou c'est à la discrétion du juge qui va...
Alors, justement, non. C'était tout l'intérêt aussi de l'injonction de soins, c'est que ça reposait... c'est-à-dire qu'il fallait une expertise psychiatrique qui disent que pour telle personne, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut à un moment donné agresser sexuellement un enfant sans présenter de troubles psychiatriques, donc ne pas relever nécessairement du soin. Bon. Donc l'idée de l'injonction de soins, c'était qu'il y ait une expertise psychiatrique qui permette un peu de faire la part des choses entre ceux qui relèvent du soin et ceux qui n'en relèvent pas. Bon. Et c'était un dispositif vraiment qui a été pensé pour les auteurs de violences sexuelles, parce qu'avec des cadres clairs, une articulation claire entre les professionnels dans leur champ de compétences, avec un dispositif qui permettait vraiment d'étayer la personne, mais en évitant les confusions qu'on rencontre souvent sur ce type de personnalité.
Mais il y a un mec qui va arriver.
Alors, il y a un mais, évidemment. Vous voyez, le mais, c'est la mise en application qui est compliquée aujourd'hui. D'abord, effectivement, la question de la connaissance de ce dispositif. Alors, les CRIAFS, là encore, ont été créés dans ce sens-là, pour favoriser la connaissance par les différents champs de professionnels. Donc, la connaissance du dispositif, et puis après, les moyens qu'on met pour pouvoir les mettre en œuvre correctement. Donc, il faut des moyens pour les soignants, il faut des médecins coordonnateurs, parce que ça, c'est une nouvelle fonction qui a été créée pour l'injonction de soins, et on en manque aujourd'hui en France. Il faut que les magistrats connaissent bien les juges d'application des peines et ces dispositifs, et il faut, parce que dans le suivi socio-judiciaire, il y a sociaux, donc il faut un accompagnement social. Les soins ne suffiront jamais. On sait aujourd'hui qu'en termes de diminution de la récidive, le fait d'avoir un emploi, un logement, un entourage, c'est au moins aussi efficace que le fait d'avoir des soins.
Sur la question de la récidive, c'est un débat qui revient assez régulièrement dans le débat public quand il y a des faits divers qui sont particulièrement horribles. Ça a été le cas par exemple en avril 2018 avec le viol et le meurtre d'une adolescente qui était âgée de 13 ans dans le département du Nord. Il se trouve que son agresseur était un récidiviste, un délinquant sexuel récidiviste. Le patron de votre formation politique, Les Républicains, Marie Mercier, Laurent Wauquiez, avait proposé à cette occasion, c'était pas la première fois que cette proposition était faite, mais d'imposer la castration chimique pour les violeurs, et en particulier pour les violeurs de mineurs. Est-ce que c'est une piste qui mérite d'être étudiée pour vous, ou bien c'est quelque chose qui vous semble tout à fait à exclure ?
Écoutez, j'ose le dire, je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas être d'accord. Je parle en tant que médecin. Et je suis d'abord médecin avant d'appartenir à un groupe politique. Ce qu'on appelait autrefois la castration chimique, parce que maintenant on parle de traitement anti-hormonal, ça ne peut pas fonctionner parce que ma consoeur psychiatre serait beaucoup plus à même que moi de répondre, mais vous n'empêcherez pas les fantasmes avec un traitement anti-hormonal. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, vous savez, quand t'as un problème très complexe, tout d'un coup, on sort du chapeau. Une solution très simple, je pense qu'il faut peut-être se méfier un petit peu.
C'est une solution trop simple, simpliste, Anne-Hélène Moncagny et Rodolphe Constantino.
Alors, effectivement, la première chose, c'est de ne plus parler de castration chimique, parce que, et ça c'est une des recommandations de l'audition publique aussi, mais bien de parler de traitement anti-hormonal ou traitement freinateur de libido. Alors, c'est un outil, ça fait partie de l'arsenal thérapeutique qu'on peut utiliser avec...
Parce que ça peut être demandé par l'auteur.
Absolument. C'est-à-dire que, dans le traitement d'auteur de violences sexuelles, ce qui est préconisé en première intention pour tous, c'est la psychothérapie. Il y a différentes formes de psychothérapie, on peut d'ailleurs intégrer différents courants, mais dans certains cas, on peut aussi proposer un traitement médicamenteux. D'ailleurs, il n'y a pas que le traitement freinateur de libido, on peut aussi mettre d'autres molécules. Bon, sur le traitement freinateur de libido, c'est un traitement qu'il faut proposer quand c'est nécessaire, mais il y a des algorithmes décisionnels qui sont assez précis. Et si on a un patient qui présente un trouble pédophilique sévère avec un risque élevé de passage à l'acte, il faut lui proposer, mais il faut son consentement éclairé, comme pour tout traitement, donc en informant des effets secondaires qui sont évidemment importants. Il faut pouvoir le proposer, mais après, l'imposer pour tous, ça ne tient pas la route. Parce qu'en effet, il y a un certain nombre de patients pour qui ça n'aurait aucun intérêt.
Rodolphe Constantino, quel est votre avis? Quel est l'avis de l'association Enfance et Partage sur cette question? Pour prolonger un petit peu le questionnement, est-ce que vous constatez en tout cas qu'un individu qui est passé à l'acte est susceptible forcément de recommencer? Parce que là aussi, à chaque fois qu'il y a des affaires dans les débats publics, ce qu'on entend beaucoup, c'est de dire, quelqu'un qui a commis des actes pédophiles, il en commettra d'autres, il ne peut plus être soigné.
Bon, je dirais pas les choses comme ça. C'est-à-dire qu'il présente un risque de récidive, ça, oui, c'est à peu près certain. Et de toute façon, ça, je le dis parce que les parcours criminels qu'on peut constater en font la démonstration. Bien sûr que si rien n'est fait et que si on le laisse faire, voilà. Alors, c'est récidive quoi? La récidive factuelle ou la récidive légale? C'est-à-dire, bien sûr, il va récidiver autant de fois dans les faits. Il peut commettre une série de faits à l'infini si on l'arrête pas. Une fois qu'il est arrêté, une fois que la justice est passée et qu'il est pris en charge, est-ce qu'il va récidiver ou pas? Alors ça, on a des chiffres là-dessus, mais enfin, les chiffres ne disent pas grand-chose. On dit que c'est 5% en matière criminelle pour des infractions sexuelles, mais ça concerne pas que les pédophiles. On dit que c'est 23% pour des agressions sexuelles. Bon, donc, oui, bien sûr, il y a toujours un risque de récidive.
Mais du coup, face à ce risque de récidive et au-delà du traitement qui peut être un traitement d'ordre psychiatrique ou médicamenteux, est-ce est-ce qu'il y a aussi peut-être la nécessité de protéger la société, par exemple, de ce risque de récidive? Alors, on évoquait tout à l'heure la question de l'éducation nationale. Il se trouve qu'aujourd'hui sort, par exemple, dans le magazine Society, qui est un magazine qui sort tous les 15 jours, si ma mémoire est bonne, et il y a un article, alors qui concerne pas la France, hein, qui concerne les États-Unis et notamment l'État de Floride, où c'est une enquête sur les criminels sexuels et en particulier les délinquants sexuels sur mineurs, qui n'ont pas le droit à un logement social, qui sont interdits de certains périmètres où se trouvent des enfants, qui se retrouvent dans des situations de grande précarité. Mais est-ce qu'il faut quand même pas s'interroger sur la façon dont on protège aussi la société de ce risque-là?
Oui, mais
Rodolphe Constantino.
Mais avant de penser les choses en termes de bannissement social, je préférerais qu'on raisonne plutôt en termes de soins adaptés. Et là-dessus, je crois qu'on a aussi beaucoup de progrès à faire, parce que quand je regarde, sans aller chercher ce qui se fait en Floride aujourd'hui, mais ce qu'on fait déjà au Canada depuis 1982 avec le centre Philippe Pinel et les moyens qui sont mis en œuvre avec des soins qui sont très différents des nôtres, des méthodes que nous avons décriées, mais qui néanmoins ont réellement fait leurs preuves, où on est en capacité à un moment donné aussi de mesurer par des test actuariel, s'ils présentent un risque de récidive, s'ils peuvent sortir ou pas, s'il faut les maintenir, je crois que avant de penser à leur bannissement et à la protection du reste de la population, il y a aussi à voir comment on peut les soigner autrement pour minimiser ces risques au maximum.
Marie Mercier.
Mais oui. Effectivement, qu'il n'ait pas de logement, qu'il n'ait pas de travail, je pense que ça va aggraver la situation. Aux États-Unis, ils ont des applications sur le téléphone pour savoir si dans le coin il y a un pédocriminel qui a été repéré. Nous, en France, c'est vraiment le contraire, on ne sait pas ça. En Allemagne, il y a un numéro où on peut appeler. Donc je pense qu'on peut trouver une solution qui soit une solution humaine.
Pas précisé d'ailleurs, pardonnez-moi, je vous coupe Marie Mercier, mais je crois que vous êtes aussi maire de votre commune.
J'étais, puisqu'avec le non-cumul des mandats, j'ai laissé ma commune en 2017.
En tout cas, il y a un fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles. Est-ce que, par exemple, en tant qu'élu, en tant que maire, c'est un fichier auquel vous pouviez, par exemple, ou vous pourriez, ou vous devriez avoir accès pour savoir si, par exemple, sur votre commune, il y a des personnes qui ont été condamnés pour des violences sexuelles sur mineurs.
Je vais même plus loin, ça s'appelle le FIGES. Alors, le FIGES, c'est un fichier, effectivement, qui est consultable, mais par certaines administrations de l'État, qui est consultable par les préfets. Un maire ne peut pas consulter le FIGES, ni même quelqu'un de la population. Vous voulez faire garder votre enfant tout petit, vous ne pouvez pas avoir accès au FIGES. On ne peut pas prévenir de cette façon-là, parce qu'on est quand même en France aussi garant d'une certaine forme de liberté. Donc, c'est un équilibre fragile entre préserver les libertés, préserver la population et surtout préserver les enfants mineurs.
Brièvement sur l'accès à ce fichier, Anne-Hélène Moncani.
Non, vraiment, je crois qu'il faut inciter le fichier. Éventuellement, ça peut permettre de repérer les gens. Mais une fois qu'on les a repérés, qu'est-ce qu'on fait? Et moi, je crois que dans la question de l'accompagnement, il y a des choses très intéressantes qui se font actuellement sur la justice restaurative, notamment sur le cercle de soutien et de responsabilité d'accompagnement des auteurs, accompagnement social.
Et cet accompagnement à la sortie, notamment de la détention, c'est une question que se posent ceux qui sont justement en prison aujourd'hui pour des crimes de pédophilie. Témoignages, on peut en entendre dans un documentaire qui est sorti hier au cinéma. Ça s'appelle La Liberté de Guillaume Massard. Il a enquêté dans la prison de Casabianda en Corse, prison à ciel ouvert. Il a notamment rencontré un de ces délinquants qui s'interroge sur ce que sera l'après-détention.
La globalité des gens, le public, les dirigeants et tout, pensent qu'une telle déviance, forcément tu es quelqu'un de malsain dans ta tête, de perverse, tu es un prédateur. Voilà. Tu es le prédateur, tu es incurable, c'est quelqu'un qu'il faut enfermer, qu'il faut éloigner de la société et tout. Donc on leur a mis dans la tête que tous les agresseurs étaient des gens comme Marc Dutroux, comme Fourniret et compagnie. Alors, on n'arrive pas à... On ne tolère plus aujourd'hui presque qu'il soit différent. À partir du moment où je l'ai fait, si tu veux, pour moi, c'est comme si la vie s'était arrêtée, quoi. J'étais un mort-vivant. J'étais un mort-vivant. Les trois années qui ont suivi avant mon incarcération, j'étais un mort-vivant. C'était la peur tous les jours, c'était la crainte tous les jours, l'incompréhension. Et ce que je suis en train de te dire, si je le dis, si je le dis demain, on va dire, à une assemblée ou autre, il y a peut-être 1 ou 2% des gens qui vont me croire, et encore.
Alors, l'extrait du documentaire La Liberté, c'est signé Guillaume Massard et c'est en salle depuis hier. Merci beaucoup à nos trois invités, Marie Mercier, Rodolphe Costantino et Anne-Hélène Moncani d'avoir participé à cette discussion. Merci à l'équipe du Grain, à la prise de son ce soir. Il y avait Jean-Frédéric, c'est à la réalisation Peyret Legras.